Cette rediffusion en ligne de Radio X, une présentation de Damava. Tu veux aider ton prochain? Damava recrute des bénévoles partout au Québec. Télécharge l'application Damava sur iPhone ou Android et inscris-toi.
Marceau, le soir, avec Marceau. Marceau.
Radio X.
Stéphane Leblond de chez Leblond et Associés est en studio avec nous. Il est en personne. Il s'est dit, tiens, je vais braver la tempête avec mon tank, puis je vais aller les voir.
Un autre tank.
Comment c'était quand t'as monté tantôt?
C'était merveilleux.
C'était merveilleux?
Oui. Le vent était tombé, c'est une belle petite neige. J'ai croisé DH qui sortait de la station. Il dit, c'est comment dehors? Tu vas être capable de, tu vas être bon pour coucher chez toi à soir. Pas de trouble.
Ben, quand j'étais jeune, là, j'avais des chars qui étaient pas trop fiables. Je m'achetais, il y a du monde qui envoyait leur voiture à scrap. Puis, ils m'appelaient, puis disaient, j'ai une voiture envoyée à scrap. Dans le temps, c'était 50$. Je sais pas si ça a augmenté maintenant. Mais dans le temps, la scrap donnait 50$. Puis là, moi, je donnais 100$. Puis je passais un 6-7 mois avec ces voitures-là. C'était des voitures à clutch. Puis souvent, je pognais des Dodge Colt ou ce genre de petites voitures-là.
Avec le muffler qui traîne à terre.
Avec le des fois, il y avait même plus de muffler parce que je l'enlevais. Ça m'a donné... faut que faire du bruit. Puis j'allais me promener dans les tempêtes de neige. J'allais me promener sur la route. Puis j'avais du fun avec ma voiture à la clutch.
Mon premier char, moi, c'était un Jeep CJ5 1976. Qui avait un top de toile. Là. Il était
un
rouge.
Un CJ? Ben, ouais. C'était beau, ça.
Ouais, c'était beau. Il était rouge avec le toit de toile noire. Puis c'était trois vitesses manuelles, un 6 en ligne. Tu ouvrais le hood de ça, là, il y avait juste le bloc puis la batterie. Ouais. Là, il y avait pas beaucoup d'accessoires.
C'était pas une mécanique qui était compliquée.
Puis quand il y avait des tempêtes, moi, j'allais chercher mes chums. Puis là, on se promenait pendant la tempête. Puis après la tempête, toujours, tu sais, le creux, là, où il fait beau, il y a plus de vent.
La
calmie. Ouais, la calmie. On enlevait les portes du char, puis on allait se promener. Ouais. Ça, c'était les beaux souvenirs.
Les filles devaient te siffler dans la rue avec un Jeep. C'est un plus, ça, quand tu rencontres un gars puis il y a un beau Jeep, là, l'été.
Un beau char, c'est toujours un plus.
Non, mais un Jeep, là. Un Jeep décapotable, tout.
Ah oui.
Les portes enlevées.
Les Jeep.
Hein? Ouais. C'était un plus.
Mais ça, c'était le fun, ça, un Jeep.
T'as-tu entendu ce que j'ai parlé tantôt avec le jeune de 22 ans qui a gagné 70 millions de dollars? La stratégie qu'il a fait?
Ouais. Dans CNN, après-midi, CNN.com, là, c'était, je pense, la cinquième nouvelle, là. Un rappeur de 22 ans gagne 70 millions Québec-Canada. Puis t'avais la photo du IGA, je pense, où il travaille, là. Bon, 70 millions, là, c'est pour un petit gars tout ça de même, c'est beaucoup, là.
Qui gagnait le salaire minimum, là.
Oui, il gagnait le salaire minimum. Mais s'il est bien conseillé, puis une tête ses épaules, c'est un bon move de distribuer ça entre les personnes qui aiment.
Tout de suite en partant.
Oui, parce que.
Puis on les considère comme étant des gagnants, donc ils ne seront pas imposés.
C'est ça. Mais tu sais, c'est aussi bien de faire ça que de le distribuer à graines après aux mêmes personnes. Au moins, là, tu sais, regarde, on a eu exactement le même montant, fait que vous n'êtes pas m'écœuré, là, si vous passez au travers de ça.
Ouais. Toi, t'en as vécu des affaires, là, avec ce genre de pas, peut-être pas des gagnants de l'auto, mais t'en vois des chicanes pour de l'argent, là.
Ah, ben oui.
T'en entends parler des chicanes pour l'argent. Ça doit être une grosse pression quand du jour au lendemain, t'as jamais géré d'argent de ta vie. Puis là, ben, je veux dire, les gens qui sont autour de toi gagnent à peu près la même affaire que toi. Tu gagnes, tu sais, tu travailles au IGA, 22 ans, tu dois faire un quoi, un 14$, un 15$ comme emballeur. Puis là, t'as des gens autour de toi qui vivent des tragédies. Il y en a qui ont des enfants malades, il y en a qui qui ont besoin d'argent, ils sont très endettés, puis là, ils commencent à te mettre de la pression. Tout gérer ça, là. Et que ça doit pas être évident.
Ouais. Parce que, tu sais, si tu les en donnes pas parce qu'ils ont des enfants malades, tu passes pour un écœurant. Ouais. C'est ce genre de pression
négative. T'es pas le gars que j'ai connu.
Ouais, c'est ça. Exactement. Ça doit être poche, là. C'est pour ça de partir, de quitter ce milieu-là pendant quelques temps, tu sais, un an, voir ce qui se passe dans le monde.
Ouais.
Tu sais, ça se passe pas tout comme au Québec. Qu'il aille visiter quelques pays, qu'il aille au Moyen-Orient, qu'il aille en Europe. Au moins, il va apprendre, tu sais, t'apprends beaucoup par les voyages, là. Puis ça va lui donner une perspective différente sur le monde, là.
Moi, c'est ce que j'aurais fait. Pendant un an, je serais parti. À 22 ans, là. Pendant un an, je serais parti. J'aurais pas donné de nouvelles à quiconque, sauf, bien entendu, la famille proche puis les amis proches. Puis après un an, je reviens puis je distribue ce que j'ai à distribuer puis ça finit là. Ça, on se fait oublier pendant un an parce que là, la pression sur lui actuellement doit être énorme, là.
Ouais, c'est ça. Tout
juste hier, il était pas chez eux, là. Tu sais, c'est pour te dire à quel point, là, il savait ce qui s'en venait, là.
Mais il a pas rencontré l'amour hier soir.
Ah, peut-être. Mais comme j'ai dit à Raphaël hier, s'il avait pas exploré la sexualité, d'après moi, dans les prochains mois, il va avoir énormément d'occasions. Ça a l'air que quand t'as de l'argent, ben, les filles, ils voient plus l'intérieur de ton cœur.
Ah, d'accord.
Oui, c'est parce que...
T'as des bonnes valeurs.
Ça permet de faire rayonner ton intérieur.
Voilà. Ce soir, avec Stéphane Leblond de chez Leblond et Associés, syndic autorisé en insolvabilité, on parle des mythes qui entourent les faillites, les anciens comme les nouveaux.
Ouais, les mythes, on en parle à l'occasion, puis ils s'accrochent, les mythes, là. Il y a beaucoup de choses. Entre autres, il y en a qui pensent que c'est juste ceux qui sont pas capables de s'administrer qui font faillite. Alors que la réalité est tout autre. Les gens qui sont pas capables de s'administrer, il y en a qui font faillite. Mais ce qu'on voit la plupart du temps, c'est des gens qui ont vécu des mésaventures commerciales. Tu te lances en affaires, ouais. T'as un bon projet, ça va bien, puis il arrive une catastrophe ou ton associé te vole ou des choses comme ça. Ce qui fait que c'est pas parce que t'es un mauvais administrateur ou que t'avais un mauvais produit, c'est parce que il est arrivé des facteurs extérieurs que tu pouvais pas contrôler. Les séparations puis les divorces. Ça, on le voit de plus en plus. Les gens qui achètent des affaires à deux, qui ont des dettes à deux, mm-hmm. Comme année, ça marche plus. Ben, tu sais, le genre de dette puis le genre d'actifs que t'as à deux, ben, généralement, t'es pas capable de les avoir tout seul. Fait que c'est, l'éclatement du couple peut aussi amener à la personne à faire faillite.
Hey, j'ai entendu une affaire assez particulière au hockey. Le gars me dit, moi, avec ma blonde, on y va au pourcentage. C'est-à-dire que lui, il a un revenu qui est plus élevé, puis il gagne plus cher, bien entendu, mais ils sont très endettés aussi de ce qu'il me racontait. Puis là, il a dit, ben quand on va se séparer, ce qu'on va avoir, mettons, la maison puis tout ça, ben ça va être à 80-20. Je dis, non, ça marche pas de même. Là.
Mais non, la maison, quand ils l'ont achetée à deux. Dans l'acte d'achat, c'est marqué... Il la jette dans une proportion de 50-50 ou 60-40 ou peu importe. Tu peux mettre les pourcentages qui font ton affaire.
Ouais.
Mais c'est pas parce que t'as décidé d'y aller au prorata dans les dépenses du foyer à 60-40 ou 80-20 que la séparation des actifs vont être dans la même proportion.
Voilà. Puis pour ce qui est des meubles, c'est ce que je lui racontais, tu sais, parce que pour ce qui est des meubles, c'est la même chose. Supposons qu'ils ont un set de chambre à acheter à 1000$, ben lui paye 800$, elle paye 200. Mais s'il y a séparation, c'est 500-500, là.
C'est ça.
Est-ce qu'on peut arriver à prouver ça, mettons, qu'il y aurait un arrangement comme ça? Ou?
Ben, non, ça fait partie du patrimoine que t'accumules.
Mais tu sais, généralement, quand ils vont acheter des affaires à deux, là, la facture va être aux deux noms.
Ouais.
Fait que tu présumes que c'est 50-50.
C'est ça.
À moins que tu aies une convention au niveau des biens meubles qui dit, regarde, on les achète ensemble, mais c'est convenu que s'il arrive une séparation, s'il arrive un décès, s'il arrive telle affaire, ben ça va être dans telle proportion où l'autre. Un va pouvoir acheter l'autre.
Ben tu vois, moi j'avais l'impression que quand tu tombes le conjoint de fait ou quand tu tombes marié, ben ce que tu accumules.
Ouais, mais le mariage, c'est pas pareil, ça. Le mariage, c'est la loi sur le partage du patrimoine familial.
Ouais.
C'est déterminé dans la loi c'est quoi qui constitue le patrimoine. Puis après ça, tu sais, il y a un calcul qui se fait, puis ça peut créer, ça fait une créance payable d'un à l'autre, là.
Oui.
Puis ça permet de liquider le patrimoine. Mais là, les gens qui sont conjoints de fait sont pas visés par cette loi-là. C'est juste les gens qui sont mariés.
Hein. OK. Ben, tu vois, j'avais l'impression que conjoints de fait, peut-être qu'on pourrait aller vérifier, là, mais conjoints de fait maintenant, là, c'est ce que vous accumulez ensemble doit être séparé à deux. Ben, tu vois, tu me l'apprends. Là, la ministre de la Famille avait mentionné qu'elle voulait faire une réforme.
Elle voulait faire, ça c'est
donc,
c'est politicien.
Possiblement que les gens qui vont être conjoints de fait vont être considérés au même titre que les gens qui sont mariés avec ce qu'elle va faire dans les prochains mois. Là.
Mais ça, c'est pas encore fait. Puis tu sais, quelqu'un qui est conjoint de fait, mettons toi, t'es conjoint de fait, mais t'es séparé d'une ancienne... T'étais marié avec une ancienne conjointe. Vous vous êtes séparé, mais vous êtes jamais divorcé. Si tu décèdes, mettons, il va y avoir le partage du patrimoine familial, puis ça se peut que ton ex-conjointe, de qui t'es pas divorcé, mais t'es juste séparé, ramasse plus que la madame avec qui t'es... conjoint de fait.
Déjà que c'est pas beau sa route, j'espère qu'il y en a pas qui apprennent qui apprennent pas des mauvaises nouvelles à soi.
Ben c'est pour ça quand tu tu as une situation où tu es séparé, mais t'es pas divorcé, puis tu rentres, tu deviens conjoint de fait, là, ça vaut la peine de dépenser quelques centaines de piastres auprès d'un notaire ou d'un avocat pour savoir, regarde, on s'apprête à acheter une maison, on s'apprête à se lancer en affaires, on s'apprête à faire telle affaire. Quelles seraient les conséquences, puis c'est quoi la paperasse qu'il faut qu'on fasse? Ça évite ben des... Tu sais, ça va coûter quelques piastres, mais tu peux dépenser quelques piastres tout de suite ou encore avoir des gros maux de tête plus tard puis tout perdre.
OK. Tu vois, Mario m'écrit, il dit « Salut Yann, je vous écoute parler des conjoints de fait versus les conjoints mariés. » Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Moi, j'avais un plus gros salaire, on avait des enfants et on a dû séparer le ménage 50-50 malgré le fait que moi, j'avais payé absolument tout ce qu'il y avait dans la maison.
J'espère qu'il n'y a pas un nombre impair d'enfants parce que... Non, qui est dans le top.
Ok.
On parle des gens qui font faillite, là. C'est pas juste parce qu'ils s'admissent pas. Les gens qui sont frappés par la maladie, un des deux conjoints, mettons, a une maladie, perd sa job ou il arrive au bout de ses prestations de chômage maladie, ça débalance le budget de la famille. Alors ça peut causer l'insolvabilité. Des gens victimes de catastrophes, t'as vu dans ton coin, il y a eu des inondations Sainte-Marie-de-Beauce. Il y en a qui ont tout perdu là-dedans, qui ont été obligés de faire faillite.
Oui.
Même dans les inondations du Saguenay, ça a entraîné des faillites puis des insolvabilités. Puis les gens qui perdent leur emploi. Alors, ben souvent, c'est pas toi qui contrôle si tu perds ton emploi. T'sais, si, mettons, il y a des Autochtones qui bloquent les rails dans l'Est du Canada, puis toi, tu travailles chez Via Rail, puis t'es tellement serré dans ton budget que tu vis de paye en paye, puis là, t'es mis à pied, puis ça peut entraîner des conséquences catastrophiques parce que quelqu'un a mis des pneus en feu sur une voie de chemin de fer.
Le bas de laine que tu dois avoir, là, quand t'es quelqu'un qui administre bien son budget, c'était quoi? C'est un 2-3 mois de paye?
C'est trois mois, idéalement. Oui.
T'as-tu ça, toi, 3 mois de paye cumulée?
Ouais.
T'as ça?
C'est parce que ma paye est pas grosse.
Moi, j'ai pas ça. J'ai des placements, trois mois de paye à côté, j'ai pas ça. Là.
Mais si t'as des placements, puis qu'il y en a une partie qui est relativement liquide, ça peut servir de fonds d'urgence.
Ouais.
Puis tu sais,
Puis CELI, exemple.
Ouais, c'est ça, un CELI. Puis ça, les gens, ils se rendent pas compte que faut pas attendre de mettre de côté ce qui reste une fois que tu as payé toutes les dépenses, là, le char, le gaz, les assurances aussi, pis ça. Faut que tu commences par te payer toi-même. T'sais, n'importe quel gens qui est dans les milieux financiers va te dire ça. T'sais, si, mettons, tu gagnes, je sais pas, 1 000 piastres net par quinzaine, tu es capable de vivre avec 950 piastres aussi par quinzaine.
Mm-hmm.
Alors, le premier 50 piastres, là, fais-toi l'enlever sur ta paye, envoie ça dans un REER... Où tu le verras même pas passer. Fait qu'à la fin de l'année, tu vas avoir X piastres de côté, puis tu vas avoir un REER que tu pourras encaisser s'il est relativement liquide, puis tu vas avoir un avantage fiscal, tu vas avoir un plus gros remboursement d'impôts, puis tu vas pouvoir commencer à faire tourner là, une roue là, qui peut être intéressante pour toi.
Ça a fait partie des trucs qu'on m'avait donné au départ pour accumuler un petit peu d'argent. C'est comme j'ai tout le temps eu 2 emplois. Ben, ça fait 4 ans que j'ai pas 2 emplois, là, mais j'avais tout le temps 2 emplois. Puis chez chacun de mes employeurs, je leur demandais de m'en enlever plus.
Ouais.
Ce qui fait...
C'est de l'épargne forcée.
C'était de l'épargne forcée, ce qui fait en sorte que le gouvernement me renvoyait l'argent que j'avais donné en trop. Puis avec cet argent là, je pouvais la placer.
Ouais, mais sauf que pendant qu'il t'en prélève trop, pendant un an, il n'y a pas de rendement là, sur ce capital-là.
Ouais.
Tandis que si tu t'en fais prélever un peu plus pour aller dans un REER ou un CELI ou quelque chose de même, il peut générer des revenus dès qu'il est retiré de ta paye. Parce que le gouvernement, il ne donne pas beaucoup de rendement là-dessus. Mais c'est tellement bien employé, cet argent-là. Tu sais, les gens disent... Il y a tellement de faillites au Canada, là. Au moment où on se parle, 10 % des Canadiens ont déjà eu affaire à un syndic au cours de leur vie. Fait que vous vous promenez dans la rue, là, une personne sur 10 que vous allez croiser aujourd'hui avoir déjà fait faillite ou une proposition au cours de sa vie. Sur les 10 que vous allez, mettons que vous croisez 100 personnes, il y en a 10 qui ont déjà fait faillite, 4 de ces personnes-là sur les 10 vont avoir fait au moins une deuxième faillite ou une deuxième proposition.
Hey, c'est du monde.
Ouais, puis
en
2020, il va y avoir au Canada environ 120 000 dossiers de particuliers là, d'insolvabilité qui va se répartir à peu près 55-45, 55 % de propositions de consommateurs puis 45 % de faillite personnelle.
Quelqu'un qui me dit, moi j'ai été victime d'une fraude amoureuse, j'ai tout perdu. Si cette personne avait pu frauder mon âme, elle l'aurait fait. Ça doit faire mal en sacrifice quand tu te rends compte que la personne te joue dans le dos depuis des années, puis t'es en train de te monter un bill. Là.
Ouais, mais mêler les sentiments puis l'argent, là, c'est un mélange explosif. Ça. Tu fais chacun tes affaires. Moi, tu sais ce que je pense du compte conjoint, ouais. Là, sauf pour un but bien différent. Là. Tu fais jamais ça. Tu sais, un des, c'est pour ça qu'on parlait l'autre fois, c'était important d'avoir des discussions là-dessus. T'sais, comment tu... T'as-tu des dettes, toi? T'as-tu des placements? C'est pas parce que je veux tes placements, c'est parce que je veux savoir si t'as une propension à l'épargne ou tu dépenses 110 % de ce que tu gagnes. Là.
On peut-tu demander ça sur Tinder?
Non, non, c'est pas à cette étape-là.
Tinder, c'est pas pour faire des rencontres amoureuses. C'est pour faire des rencontres minouches-minouches.
Ah. Un autre mythe, c'est faire faillite, ça coûte rien. Il y en a qui disent, ben garde, quand tu tes rencontres, tu lui dis, garde avec ce que tu as comme revenu, etc., ça va, tu vas devoir remettre au syndic tant de piastres par mois. Il dit, ouais, mais c'est parce que si je fais faillite, c'est parce que j'ai plus d'argent. Puis là, tu leur expliques, non, quand tu fais faillite, c'est pas parce que tu n'as plus d'argent, c'est parce que tu n'as plus de crédit. Alors, la faillite au Canada, c'est géré, les praticiens de la faillite, ils viennent de l'entreprise privée. Il y a un organisme gouvernemental qui s'appelle le Bureau du surintendant des faillites, qui est une division d'Industrie Canada qui surveille l'exercice des syndics. Mais ça va vous coûter minimalement une faillite personnelle si vous avez très peu de revenus ou beaucoup de charges familiales. Ça va vous coûter 1 800 $ pour une première faillite, sauf exception. Tu sais, il y a des syndics qui vont dire, ben, regarde, toi, tu fais vraiment pitié, moi, te prendre à moins cher que ça ou je vais te faire gratuit. Il y a des syndics qui le font pro bono dans certains cas.
C'est pas cher? Donc, c'est surprenant quand même.
C'est pas cher, puis par rapport à tout ce qu'on fait dans le cadre de la faillite. Puis il y a un tarif. Si la personne a quelques biens, des remboursements d'impôts, la rémunération du syndic, c'est en fonction du tarif qui est prévu dans la loi. C'est un pourcentage des recettes qu'il y a dans le dossier. Puis depuis 2009, la loi prévoit que ils ont établi le principe que quand une personne fait faillite, plus elle gagne d'argent pendant sa faillite, plus elle doit payer au syndic au bénéfice des créanciers pendant plus longtemps. C'est pour ça qu'une première faillite, la personne qui gagne pas des gros revenus, ça dure 9 mois, 200 $ par mois pendant 9 mois. Puis si elle a plus que le seuil prévu par le surintendant de faillite, ça dure 1 an de plus pour une première faillite, puis elle doit remettre une portion de ce qui dépasse le seuil. Alors c'est quand on rencontre les gens, on leur explique ça.
OK. Mais supposons que je sais pas, moi je fais 50 000 $ par année, puis là ben ça va plus, j'ai trop de dépenses, je dois trop d'argent, je m'en vais voir un syndic autorisant l'insolvabilité, je décide de déclarer faillite, puis 2 mois plus tard, ben je me trouve un autre emploi, puis là je passe de 50 000 par année à 90 000 par année. Est-ce que ça peut occasionner un problème?
Ça occasionne pas de problème, sauf que le montant que tu vas avoir à remettre au syndic
va être
ajusté à la hausse. C'est pour ça que dans le cadre de la faillite, il y a différentes périodes où on calcule la moyenne des revenus nets mensuels depuis la date de la faillite. Puis là, on s'ajuste. Est-ce que tu n'as versé trop? Est-ce que tu n'as pas versé assez? Puis dans le cas d'une première faillite, si la personne a beaucoup de revenus, ben après 7 mois, on réévalue ce qu'elle a gagné. Puis après 20 mois, on le réévalue aussi.
Okay.
Puis dans certains cas, la loi dit que la personne doit tenir le syndic à viser de changements importants dans sa situation financière. Fait que si elle passe d'un état de chômeur, mettons, à la directeur général d'une grosse entreprise, ben là, c'est important de le dire au syndic pour éviter d'avoir une balloune à payer à la fin puis de retarder la libération.
Mais c'est après, entre guillemets, que ça doit coûter cher parce que là, t'es pénalisé sur plusieurs choses. T'as refaire un nom au crédit, par exemple, et des trucs comme ça.
Ouais, mais on va en parler de ça, là.
C'est un autre mythe.
C'est un autre mythe, ouais, mais c'est oui et non. Un autre mythe, c'est, il y en a qui pensent que ça va les suivre toute leur vie.
Ouais.
La faillite ou la proposition. Oui et non. Généralement, le fait que vous ayez fait une faillite ou une proposition, si c'est la première fois, pour une proposition, ça va rester inscrit dans votre dossier de crédit pendant 3 ans après la fin de la proposition. Après ça, ça se purge automatiquement de votre dossier de crédit. Fait qu'il n'y a plus de traces dans le dossier de crédit. Puis une faillite, c'est généralement 6 ans après la date de votre libération que ça se purge de votre dossier de crédit. Sauf que c'est pas parce que c'est plus dans le dossier de crédit que c'est plus nulle part. Depuis 1978, il y a le Registre national des faillites où là, tu as les données de tous les dossiers de faillite qui ont été déposés au Canada depuis 1978. Fait que si t'as un nom, une date de naissance, puis t'as 8 piastres qui traînent, tu peux avoir, savoir si ton beau-frère a déjà fait faillite ou ton voisin ou tes enfants ou ta mère ou ton père. Alors, à ce sens-là, ça reste très longtemps dans le... Ben, ça reste toujours là dans le registre national des faillites. Un autre mythe, c'est tout le monde va savoir que vous avez fait faillite. Il faut vraiment être motivé pour savoir qu'une personne a fait faillite, parce que la plupart du temps, les faillites personnelles, il y a deux types de faillites personnelles. T'as la faillite sommaire, la personne qui a pas beaucoup d'actifs. De fait, si la personne a moins de 15 000 piastres d'actifs libres, c'est une faillite sommaire. Puis si elle a plus que 15 000 piastres, c'est une faillite ordinaire. Alors, la plupart des dossiers de faillite, c'est des dossiers de faillite sommaire. Alors, il n'y a pas de publication dans le journal, il n'y a pas de dossier d'ouvert à la cour, il n'y a pas d'assemblée de créanciers, sauf exception. Alors, la publicité de cet événement-là est assez limitée. Sauf qu'il reste toujours le registre national des faillites. Mais avant, quand c'était une faillite sommaire, c'était les gens qui avaient moins de 500 piastres d'actifs libres. Alors, il y avait beaucoup plus de faillites ordinaires. Alors, il y avait beaucoup plus de publications dans les journaux. Il y avait un dossier d'ouvert à la cour. Alors, c'était plus facile de consulter le primitif à la cour. Tu avais un nom. Puis tu pouvais voir les dossiers de faillite. Ah, Germain Tremblay, il a fait faillite. C'est mon voisin. Puis tu vois.
Encore là, y a-t-il des gens qui checkent les faillites dans le journal?
Oui, oui, oui.
Ah,
oui.
Des petits curieux.
J'ai regardé le courrier de Louise aujourd'hui.
OK.
Il y en a qui regardent les faillites.
La comtesse. Il y en a un autre mythe qui dit que les gens pensent que quand ils vont faire faillite, ils vont perdre tous leurs biens.
Ouais.
T'sais, on se fait poser la question, je vois-tu perdre mon char? Généralement, la plupart des autos sont financées pour plus ou l'équivalent de leur valeur. Fait que le syndic, il va regarder s'il y a un intérêt dans ce bien-là. Si le char vaut 10 000 puis la personne elle doit 11 000 dessus, ben on me dit, regarde, si tu veux conserver l'auto, moi, j'ai plutôt pas de problème avec ça, mais tu vas falloir que tu continues les paiements auprès de la Banque Scotia ou la Banque de Montréal. Mm-hmm. Ça pose pas de problème. Si la personne, elle a un char de 3 000 qui est tout payé, ben on va dire, regarde, si tu veux le conserver, faut que tu le rachètes de la faillite. Parce que nous autres, quand on ramasse des biens, on a deux façons de les liquider. Soit qu'on l'envoie à l'encan puis ils nous font livrer un chèque le vendredi d'après. Ou encore, si la personne, elle le rachète, on va dire, regarde, c'est 3 000 ça peut être, mettons, je sais pas, 100 par mois pendant 30 mois, une affaire comme ça. Alors, la personne va garder ses biens. Même principe pour une maison. On va regarder c'est quoi qui est dû sa maison par rapport à sa valeur, oui. Puis on va établir s'il y a une équité, ben on peut s'entendre pour racheter l'équité. Puis si la personne, elle constate qu'elle n'a pas les moyens de rester dans la maison puis il y a de l'équité, ben on va dire, regarde, on va la mettre en vente. Reste dedans le temps que ça se vende, parce que ça se vend toujours mieux. Puis on va vendre le bien après. Mais de façon générale, les gens peuvent conserver leurs biens là la plupart du temps.
Ça doit tellement être libérateur pour les gens des fois là, de dire ok, tu sais, j'arrête d'essayer de me battre puis je fais faillite.
Parce qu'à un moment donné, tu peux plus te battre, là, le téléphone arrête pas de sonner, ouais. Tu peux pas répondre parce que t'as plus d'argent, tu regardes ton compte en banque, t'as plus d'argent, t'es plus capable de te nourrir ou encore c'est de nourrir tes enfants. À un moment donné, faut que tu dormes, faut que tu recommences à dormir. Là.
Mais l'aspect libérateur là, c'est vrai ça. Ouais. Au Canada, le principe de la faillite, c'est le fresh start. On tire une ligne puis on repart à neuf. C'est ça le principe là qui guide toute la législation de la loi sur la faillite. C'est bien différent aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a un problème de faillite personnelle. Tu sais, au prorata là, il y a deux fois plus de faillite personnelle aux États-Unis qu'au Canada. Alors, c'est beaucoup plus coercitif là, les débiteurs sont plus suivis, il y a des tests de solvabilité, etc. là, c'est assez complexe puis c'est fait plus pour punir. Alors, au Canada, c'est une approche bien différente.
OK.
Y en a qui pensent que faire faillite, ça va ruiner leur retraite. Ils ont peur de perdre leur REER, leur fonds de pension. Alors, les fonds de pension, c'est insaisissable. Comment est-ce que vous êtes fonctionnaire, vous avez 300 000 $ dans votre fonds de pension, c'est insaisissable. Puis les REER, depuis quelques années, sont tous insaisissables, sauf les contributions que vous avez faites dans les 12 derniers mois. Alors, si vous avez contribué là le 2 mars 2019, puis vous faites faillite aujourd'hui, ben, le syndic va vous recommander de retarder ça d'une semaine, là. Mais si, dans les 12 derniers mois, on va écrire à la compagnie qui gère le REER, on va dire, regarde, confirme-nous ça, puis on va dire, regarde, il y a 3000 piastres qui ont été contribués dans les 12 derniers mois, puis le syndic va racheter, va demander le rachat de cette chose-là. Mais quand ils ont modifié la loi Safit pour les rendre insaisissables, c'était pour corriger une inéquité qu'il y avait avant. C'est que si t'étais un fonctionnaire ou t'étais un travailleur qui avait un fonds de pension, tu faisais faillite, tu perdais pas le fonds de pension. Puis si t'étais un travailleur autonome qu'il y avait un REER.
Ah, non.
Là, tu perdais ton REER.
Voyons.
Fait que, tu sais, ça n'avait pas beaucoup de bon sens. Puis, il y avait un aspect politique à ça, c'est que le gouvernement voulait dire, ben, regarde, nous, on veut pas, les gens qui perdent leur REER, ben, c'est nous qui allons être pognés pour contribuer à leur retraite quand ils vont prendre leur retraite. Alors, c'est une façon pour le gouvernement aussi de régler ça.
Question pour vous, M. le Président. Jean-Pierre veut savoir, est-ce qu'on doit faire faillite si on va porter les clés de notre maison à la banque et que la valeur marchande de la maison est inférieure à l'hypothèque?
Ça dépend du recours hypothécaire que le créancier hypothécaire va prendre. Il y a deux façons pour le créancier de reprendre la maison. Il peut la reprendre en paiement. Tu regardes, moi, la maison, je reprends en paiement de la dette. Si je perds de l'argent en la revendant, je t'écœure pas avec ça. Puis si je fais de l'argent en la revendant, je la garde. La plupart des choses qu'on voit là, quand il y a des faillites, c'est une prise en paiement. Puis l'autre recours hypothécaire, c'est la vente sous contrôle de justice. Le banquier saisit la maison, il la fait vendre en justice. Puis s'il manque de l'argent, il va le réclamer au débiteur. Puis s'il y a un surplus, il va le remettre au débiteur aussi. Mais les surplus, c'est rare que ça arrive. Par contre, ça va affecter votre dossier de crédit dans un ou l'autre des cas, là.
Autre question. Si je fais une proposition au consommateur, est-ce que je peux au moins garder une carte de crédit pour payer ce que j'ai à payer?
Non. Malheureusement, là, tu peux pas garder de carte de crédit parce que tu dois remettre au syndic les cartes de crédit. Puis il y a une logique derrière ça, c'est que si, mettons, tu as 5 cartes de crédit dans ta proposition... Ouais. De Banque de Montréal, Banque Scotia, TD, etc. Puis toi, tu décides de garder ta Visa Desjardins. Ben, les autres créanciers, là, pourquoi eux autres, ils perdraient de l'argent sur la créance alors que Visa Desjardins va être payé au complet? C'est une question, la loi de faillite, c'est une loi d'équité. Alors, tous les créanciers doivent avoir le même traitement.
Autre question, elle est quand même assez longue, là, mais je pense que ça vaut la peine d'en parler. Bonsoir, moi j'ai été 11 ans avec ma conjointe et pas d'enfant, seulement conjointe fait. Nous avons une maison. J'investissais pas vraiment dans la maison, sauf que je payais pas mal tous les comptes. En revanche, elle avait de l'argent pour les meubles. Je trouve qu'elle a beaucoup investi dans les meubles avec le temps. Elle m'a demandé de vendre mes meubles. Elle en achetait des plus luxueux, tranquillement, pas vite. J'avais de moins en moins de meubles à moi dans les premières années. Je payais, moi, hydro, taxes municipales, scolaires, maison, télé, internet, et elle me disait, j'ai l'impression qu'elle s'enrichit dans ce temps-là. La maison est à 50-50, mais moi, je me retrouve avec presque pas de meubles. J'ai toutes les preuves que je payais. J'ai-tu une possibilité d'aller chercher quelque chose, moi... J'ai-tu une possibilité d'aller chercher la moitié des meubles? Je voudrais savoir, avec une situation comme ça, s'il y a moyen d'aller chercher la moitié des meubles. Okay. Je vais virer ça de même, parce que là...
La maison, c'est clair, on le disait tantôt, là, c'est 50-50, puis l'acte notarié qui a été rédigé lors de l'achat témoigne de ça. Les meubles, s'il n'y a pas de convention qui dit que, ouais, en considération de ce que tu payes pour la maison, je vais te donner la moitié de la valeur des meubles, ben c'est dur. Il peut y avoir une convention verbale, c'est toujours bon, sauf que c'est toujours d'en faire la preuve. Puis il va avoir les factures des meubles. Si la facture du set de chambre qui a coûté 4 000$, c'est aux deux noms, ben là, ça te donne une idée que ça va être aux deux. Okay. Là.
Mais si c'est juste un nom?
Ben, ça part mal.
Salut, je vous écoutais pour ce qui est de la faillite de fraude amoureuse. J'ai tout perdu, mon nom, mon crédit. Ma carte de guichet, quand je dormais, il me volait ma carte de guichet. C'était un joueur compulsif. Tabarouette. Ah, c'est une qui se ramasse dans de la tristesse. Hein?
Ouais. Alors, tu sais, même le NIP, là, vous le donnez même pas à votre conjointe ou à votre conjoint. C'est vraiment personnel. Ouais. Ouais. C'est ton compte à toi, ta carte à toi, ton NIP à toi.
Hey, le nombre de personnes qui disent « Ah, oh, va me chercher un chip au dépanneur, t'as ma carte. »
Tu vois, tu faisais ça, toi?
Même ado, là, puis tu sais, depuis vingtaine, là.
Ouais. Mais ça, c'est pas pire, tu sais. Moi, j'ai eu une situation d'urgence où j'ai été obligé de dire à ma fille « Regarde, va au guichet automatique puis sort de l'argent. Mm-hmm. On était au Moyen-Orient en plus, là. Mais ça, c'est exceptionnel. Mais ce qu'on voit, là, c'est les parents très âgés qui ont des enfants de 40-50 ans, là, qui prêtent leur carte de crédit ou leur carte de guichet automatique,
ouais,
qui se ramassent dans le trouble puis qui sont obligés de faire des faillites parce que la carte est bustée. Hey, puis
c'est dégueulasse.
Ça, c'est triste.
Mon ex-blonde avait loadé mes 4 cartes de crédit. J'ai dû faire faillite et partir en thérapie pour m'en sortir. T'imagines?
C'est lourd.
J'espère qu'il pue avec cette ancienne
blonde. Non. Joe dit, salut, moi, mon gars m'a monté un bill de 6 000$ sur Internet pour jouer à des jeux vidéo.
Impossible pour moi d'effacer cette dette-là.
Mais le texto aussi, Michel, qui dit « La faillite, c'est juste se débarrasser des cartes de crédit et prêts personnels. Si je garde ma maison, mon auto et mon 4-roues, wow, c'est quasiment un deal en bout de ligne. »
Ben, ça dépend. Si vous gardez votre maison, votre 4-roues, puis ces biens-là sont hypothéqués pour l'équivalent de leur valeur, tu as conservé une équité de zéro.
Puis il faut continuer les paiements, c'est ça, après.
Il faut continuer les paiements, c'est ça. T'as pas la maison toute payée. Là.
Mm-hmm. Quand même. On va se calmer, là.
Il y en a qui pensent aussi qu'ils pourront plus emprunter après leur faillite. Tu sais, ça va être mon crédit va être ruiné à vie. Alors que dans le cadre de la gestion du dossier de faillite, il y a différentes phases de consultation, dont la deuxième où on parle de se fixer des objectifs financiers, favoriser, créer une propension à l'épargne, et aussi de regarder comment ça va s'organiser la réhabilitation du crédit. Parce qu'on l'expliquait tantôt, la faillite, ça reste pas inscrit dans le dossier de crédit éternellement. Alors, il y a des façons, il y a des trucs que le syndic va regarder avec la personne qui a fait faillite ou qui a fait une proposition de consommateur pour réhabiliter le crédit. Puis c'est comme n'importe quoi, là. C'est en faisant un peu d'exercice, là, puis de discipline personnelle qu'on peut rétablir le crédit puis se mettre un peu de l'argent de côté. Il y en a qui pensent aussi qu'il faut, avant d'aller voir un syndic, faire appel à un conseiller en gestion, là, qui sont beaucoup annoncés sur Internet ou dans les petites annonces, là. Si vous avez des troubles financiers, là, vous pouvez aller direct au syndic. C'est pas parce que vous rentrez dans le bureau du syndic que vous allez ressortir en faillite, là. Le syndic est plus professionnel que ça. Puis il y a différentes solutions. Ça peut être soit la proposition de consommateur, soit la faillite. S'il y a beaucoup d'équité sur votre maison, ça peut être de refinancer cette maison-là, aller voir un courtier hypothécaire. Ouais. C'est tous les scénarios qu'on regarde pour être capable d'établir ça. J'ai eu un jeune couple, là, il y a une dizaine de jours. L'arbre leur cachait la forêt. On a pris le temps, on a fait un budget. On dit, regarde, voici le plan de match, c'est ça. La dette de la compagnie de finances là, qui coûte cher, ben tu vas pouvoir en payer un peu plus parce que ton char va être fini de payer dans 4 mois. Fait que ce que tu payais pour le char, paye-le pour la compagnie de finances, puis que tu vas débouler tes cartes comme ça. Ils trouvaient que c'était une bonne idée. Puis c'est ça qui va leur éviter ultimement la faillite ou la proposition de consommateur.
Mmh. Tu sais, je porte pas un jugement, mais tu sais, moi je vois les textos rentrer, puis je vois qu'il y a des gens dans mon entourage qui s'inquiètent pas d'avoir une dette de 50, 60 000. Puis dans mon entourage, il y a des gens qui s'inquiètent d'avoir une dette de 5 000 piastres, puis qui peuvent même penser faire faillite pour 5 000 piastres.
Hein? Ouais.
C'est comment vous autres vous déterminez ça, à savoir si oui, c'est correct de faire faillite ou non? Tu pourrais peut-être prendre un chiffre de plus un samedi, là, puis ça va aller bien après 6 mois.
Ça fait partie des choses qu'on examine quand on voit la personne, parce qu'il n'y a pas deux cas pareils. T'sais. Pour quelqu'un qui a un gros salaire puis qui n'a pas beaucoup de charges financières, avoir une dette de 50 000, c'est pas la fin du monde. Mais quelqu'un qui travaille au salaire minimum, qui a 2 enfants à sa charge, qui est un père ou une mère monoparentale, puis qui a pas beaucoup de dettes, ben même s'il y a pas beaucoup de dettes, ça peut être la fin du monde. Tu sais, des gens qui font faillite pour moins de 10 000 piastres, ça a l'air épouvantable, mais il y en a parce qu'ils sont pas capables. T'sais, il faut qu'ils coupent sur l'épicerie pour payer le minimum, ouais, ses cartes de crédit. Alors la solution dans ce cas-là, ça peut être soit une proposition de consommateur ou carrément la faillite. Le but, c'est de le libérer du fardeau qui traîne.
Ouais.
Parce que, tu sais, ces gens-là, bien souvent, vont avoir recours à des prêts, les prêts à la semaine, là, où les frais puis les taux d'intérêt sont épouvantables. Puis ça, ils creusent leur tombe plus que de s'en sortir, là.
Ouais.
Un autre mythe, la faillite est la seule solution en cas de difficulté financière. Ben, il n'y a pas juste la faillite, là. Il y a différentes affaires, puis même dans certains cas, quelqu'un qui a pas beaucoup de revenus puis qui a pas beaucoup de dettes, ben ça peut être le service des dépôts volontaires aussi au palais de justice, mm-hmm, qui peut être la solution. C'est fait partie des choses qu'on examine. Puis les gens qui s'imaginent que parce qu'ils font faillite, ils ont plus de paiement à faire, ben c'est pas le cas. Tu sais, si elle a pas beaucoup de revenus puis il y a pas d'actifs à racheter de la faillite, ben elle va payer au moins les frais de la faillite. Si elle a plus que X piastres de revenus, il y a une portion de ses revenus, comme on l'a expliqué, qui va être remis au syndic. Si elle veut conserver sa maison ou son auto puis il y a de l'équité, puis il faut qu'elle rajoute ça du syndic. Fait que les cas de gens qui font faillite qui ont plus aucun paiement à faire, c'est ben ben rare aussi. Fait que ça fait vraiment le tour des mythes là qui s'ancrent beaucoup. Puis un qui revient souvent, des gens qui pensent que quand ils font faillite, ça les libère pas des dettes d'impôts. Alors ça, les gens qui disent, ouais, mais l'impôt, ça embarque pas là-dedans. Je dis, ben oui, ça embarque là-dedans. Ça a le même caractère que la carte de crédit ou le prêt personnel. C'est parce qu'aux États-Unis, les dettes d'impôts fédérales des deux dernières années sont pas libérables. Tu peux te libérer de ce qui est au-delà des deux dernières années. Puis il y en a qui confondent là, le régime américain puis le régime canadien. Mais c'est définitivement les dettes d'impôts, c'est des dettes libérables. Il y a certaines exceptions, c'est que si une personne a plus de 250 000 $ de dette d'impôt sur le revenu, puis que ça constitue les trois quarts de ses dettes, ben elle n'a pas le droit de libération automatique. C'est considéré comme un grand débiteur fiscal, puis il faut aller à court à ce moment-là. Mais tu sais, c'est à peu près le seul cas. Là.
Mais as-tu des fois l'impression, tu sais, toi, t'es vraiment pas dans le jugement, là, mais j'imagine que tu dois avoir des questionnements. Quand tu regardes le niveau de vie de certaines personnes, as-tu l'impression des fois que ces gens-là, on dirait qu'ils sont pas capables de voir que ce qu'ils payent, c'est pas nécessairement tout le temps nécessaire? Tu sais, les gens, mettons, le gars travaille 5 jours semaine, puis le soir, ben, il est tout le temps parti sa trotte, mais il a le câble à la maison, il a super écran, il a Netflix, il y a Disney+, il est full load, ça coûte, ces affaires-là, ils coûtent à peu près 200-250 $ par mois. On dirait que ces gens-là voient pas clair.
Ben, il y a le fait que les gens font pas de budget, ou ils en font un, mais ils le suivent pas. Il y a l'attrait de la publicité puis de la facilité du crédit. Tant que cette personne-là que tu décrivais va être capable de financer ce train de vie-là, il n'aura pas de problème. C'est juste tant par mois. « Ah, on va aller à Cuba, ça va être 40 $ par mois, on emprunte ça chez telle compagnie de finances. » Tant que le crédit va être disponible, il n'aura pas de problème. C'est quand le crédit va se resserrer, le banquier à un moment donné va dire « Tu sais, ta marge de crédit, là, ça fait 4 fois que tu l'augmentes depuis un an. » On peut plus, là. Tu dépasses le 40% de ratio d'endettement. Là, il va avoir une prise de conscience, puis bien souvent, il va être trop tard parce que la machine sera plus arrêtable.
Ouais, c'est ça. T'sais, à chaque année, quand tes assurances arrivent, est-ce que tu négocies avec eux? Est-ce que tu appelles d'autres entreprises?
Ça fait partie des choses qu'on regarde quand on fait un budget, ça.
Quand Bell cogne à la porte, puis là, toi, ça fait 10 ans que tu es avec Vidéotron, puis il dit, ben, nous autres, pour la même affaire, on peut te donner 20 $ de moins. Tu décides-tu de switcher? T'es pas obligé de switcher, mais tu peux appeler Vidéotron pour dire, hey, il y a un 20 $ de moins, là, l'autre bord, je suis le bord de changer. Vidéotron va te le baisser. Toutes ces affaires-là, les gens qui font constamment des allers-retours, tu sais, samedi et dimanche, ils font des commissions, mais des fois, ils retournent à la maison, ils s'en vont. Le gaz, ça coûte cher.
Tu
roules-tu à 130 sur l'autoroute ou tu roules à 100? Parce qu'en bout de ligne, si tu fais bien du kilométrage, ça peut faire une différence à la fin du mois.
Ça, c'est ma théorie sur le prix de l'essence. Ça dérange personne, le prix de l'essence. Parce que, regarde, moi, je roule 110, là.
Ouais.
Mais le nombre, tu sais, moi, je roule peu pire, là. Alors, le nombre de personnes qui roulent à 120 puis à 130, alors que tu sais que ça coûte 20% de plus de gaz que si tu roules à 100, ben, tu dis, ça les dérange pas.
Ouais.
Fait que là, tu sais, quand j'y vois chialer, t'es pas le gars qui me dépassait à 125, là. La ferme, là.
Mais la carte de crédit, mettons, là, es-tu supposée dans un monde idéal, être payée, je sais pas, à moitié ou être toujours à zéro?
Ça, c'est une très bonne question.
Merci.
Puis une fille qui pose cette question-là.
Le principe.
À zéro, moi, je suis malade mentale là-dessus.
Ça, c'est parfait.
Je la paye automatiquement.
Le principe de l'achat avec une carte de crédit, c'est de payer plus tard quelque chose que t'as le moyen de payer aujourd'hui.
OK.
Puis il peut avoir un aspect pratique. Mettons que t'es travailleuse autonome, puis tu peux prendre tes dépenses d'automobile. Alors, tu vas avoir une carte de crédit pour mettre toute ton essence. Mm-hmm. Puis à la fin de l'année, c'est plus facile de faire un record de ça. Généralement parlant, si tu laisses traîner un solde de plus de 50% de ce qui est permis sur ta carte de crédit, mettons que t'as une carte de crédit avec 1 000 $ de maximum, tu laisses toujours 600-700 $ traîner parce que tu n'as pas les moyens, tu fais les paiements minimum. Ça a un effet négatif sur ta cote de crédit. Tandis que si tu payes intégralement le solde, ça va avoir un effet positif sur ton dossier de crédit. Alors,
En
bas de 50%.
Okay.
Alors, si idéalement, c'est de le payer au complet, mais il peut arriver des mois où c'est plus difficile. Si t'es dans une business que c'est cyclique puis tes revenus baissent, alors ça c'est compréhensible.
C'est là pour ça, là, entre guillemets aussi, là.
Ouais, mais ce qu'il faut éviter, ben à ce moment-là, l'outil plus approprié, c'est peut-être une marge de crédit où tu vas payer un taux d'intérêt moins élevé.
Souvent, les étudiants vont y aller plus avec une marge de crédit justement.
Ben, les étudiants, ils ont pas vraiment besoin d'une marge de crédit, là.
Pourquoi?
Parce que les étudiants, t'sais, avec les revenus qu'ils ont, une carte de crédit généralement ça fait l'affaire.
Ok.
Parce que Non, je recommande pas la marge de crédit pour les étudiants.
Bonsoir Stéphane. Mon frère m'a emprunté 30 000 $ pour partir son entreprise il y a de ça 4 ans. Il m'a toujours promis qu'il allait me remettre cet argent-là aussitôt qu'il allait être capable. Et là, je m'aperçois depuis quelques semaines qu'il parle de plus en plus de faire faillite. Est-ce que sa dette envers moi va être effacée et passée dans cette faillite-là?
Oui. C'est fort possible, à moins que la dette, elle ait été garantie par une hypothèque sur un immeuble qu'il y avait ou des biens mobiliers, là.
Ça, c'est une stratégie que peu de gens connaissent. Les entrepreneurs en construction connaissent tout ça, là.
Ben, les entrepreneurs en construction, ils ont l'hypothèque légale de la construction qui est prévue dans le Code civil, là. Mais si, mettons, votre frère, il a une maison qui vaut 400 000 puis sur laquelle il y a 100 000 piastres d'hypothèque, puis il dit, garde, j'ai besoin que tu me prêtes 30 000 piastres parce que j'ai un projet puis j'ai moins de liquidité. Parfait, mon frère. Je vais te prêter 30 000 piastres. Tu vas aller chez mon notaire. Tu vas me donner une deuxième hypothèque sur ta maison. Puis les modalités de remboursement seront les suivantes. Tu sais, après 2 ans que ton entreprise va être partie, elle va avoir son air d'aller, là. Tu vas me verser le minimum des montants suivants, soit 50 % des profits nets de ton entreprise ou tel paiement, etc. Pour que ce soit clair, pour pas qu'il se fasse dire « Oh, je vais te revenir avec ça. T'sais, quand ça va aller mieux, je vais te... » Ça, c'est l'enfer.
OK, mais advenant le coup, il fait faillite, tu perds quand même ton argent.
Si le créancier il a pris une deuxième hypothèque sur la maison, ben généralement, il y a un recours hypothécaire qui est prévu dans l'hypothèque. Il peut, pour mettre de la pression, engager le recours hypothécaire puis ramasser à la maison.
OK. T'imagines le stress de Marie-Pierre? 30 000 piastres, c'est ton frère.
Ouais. Là, mais c'est pour ça, c'est encore plus important d'avoir des papiers puis des garanties quand tu fais affaire avec des membres de la famille ou des conjoints, des conjoints.
Mettons signé sur une feuille de papier là, que t'as prêté 30 000 piastres à ton frère, justement,
ça te donne pas plus de droits que l'émetteur de la carte de crédit à qui il doit 5 000 piastres.
Parce que 30 000 piastres cash, là, faut que t'en aies gagné 50 000, là, 55 000. Là.
Plus que ça, parce que t'as un coût de vie aussi. Là. Ouais. C'est le revenu net moins ce que ça t'a coûté de vivre pendant ce temps-là. Alors, c'est tragique.
Stéphane Leblond, chez Leblond et Associés, comment les gens peuvent te rejoindre?
Les gens de Québec, 418-525-4641. Les gens de l'extérieur, 1-877-525-4641. Puis le site internet go-syndic-leblond.com.
Merci beaucoup.
Merci.
Bye-bye.
Marceau, le soir. Marceau.
Radio X.